philosophie première par le père Philippe à Saint-Jeudard le 13 avril 1988.
Nous étions restés à l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Et on se posera toujours la question. Quand on se pose cette question, on voit qu'on ne peut pas s'arrêter premièrement aux diverses déterminations des catégories. Parce que si l'être est principalement la quantité, il ne peut pas être la qualité. Autrement dit, si j'interroge vraiment pour savoir ce qui est à la source de ces diverses déterminations, puisque si elles sont diverses et qu'elles impliquent un certain ordre, toutes sont relatives à la substance, du moins ce qu'on appelle la substance, c'est-à-dire l'individu, Pierre, Jacques. Elles ne peuvent donc pas être telle ou telle de ces déterminations. J'ai dit Pierre est grand, Pierre est beau, Pierre est intelligent. Toutes ces déterminations regardent l'individu. C'est le propre des catégories, ça. Et les catégories sont établies comme une première détermination fondamentale. Ce qui est premier quand j'attribue à Pierre ces différentes déterminations, c'est la détermination essentielle. Pierre est un homme. De sorte que je me pose la question: qu'est-ce qui est au-delà de ces deux aspects, Pierre et homme? Oui, toutes les catégories se ramènent à ça. Ce que Aristote appelle substance première, substance seconde. Et ceci, nous pouvons tous le saisir, puisque c'est descriptif. Toutes les déterminations se ramènent à ça. Faites l'expérience vous-même en regardant les catégories, les diverses attributions, le langage. Le langage signe de ma connaissance de la réalité. Oui, je me sers du langage. Il ne faut pas l'oublier. Le philosophe est très attentif au langage. Il est très attentif au langage pour le dépasser. Pas bon de s'y arrêter. Et tout se ramène, de fait, à ce noyau fondamental, l'individu. Et cet autre aspect de l'attribution essentielle, Pierre est un homme. Pierre est un animal. Et alors je me pose la question, qu'est-ce qui est premier? C'est au fond très intéressant, ça. Quand on regarde ce qu'Aristote appelle substance première, substance seconde, pierre, homme. Qu'est-ce qui est premier? Pierre ou homme? Oui, comme c'est curieux, si je réfléchis un tout petit peu là-dessus, je vois tout de suite les deux grandes orientations de la pensée, de fait, en Occident. Et je crois en Orient aussi. C'est peut-être ça qui est très important à souligner. Si je prends pierre comme substance première, Aristote, substance première, tout est attribué à pierre. Homme est attribué à pierre. Donc, homme est relatif à pierre. Pierre, il existe. Il est. Ce qui est donc premier, au-delà de la détermination, c'est l'exister. Donc ceci présuppose le jugement d'existence, ceci est. Autrement dit, l'interrogation fondamentale, est-ce que ça existe? Ce qu'Aristote appelle le eis esti. Homme est la détermination, la forme. La forme essentielle. C'est la forme essentielle, homme. Il n'y a aucune détermination plus importante pour Pierre que homme. Tout se ramène à ça, puisque animal est inclus dans homme. Intelligent présuppose homme. Bon présuppose homme, et ainsi de suite. Homme est vraiment la détermination fondamentale de Pierre, l'individu qui existe. Homme n'existe que dans Pierre. Homme pris séparé de Pierre n'existe pas que dans ma pensée. L'homme en soi, l'homme universel. Alors, il existe dans ma pensée, mais pas dans la réalité. Donc ici, je suis en présence de ce qu'on appellera la philosophie réaliste, qui se réfère à « il existe ». Qu'est-ce qui intéresse le philosophe? C'est ce qui existe, en premier lieu. Si maintenant, je regarde l'inverse, je dis « qu'est-ce qui est premier ?» C'est homme. Homme en soi. Je suis en face de Platon. Ici, je suis en face d'Aristote. Je les mets exprès très loin pour qu'ils ne puissent pas se corréler. J'ai donc Platon ici, qui met en premier lieu l'homme en soi. Et l'individu, substance première, est relatif à l'homme en soi. Mais comme c'est curieux, on a tout de suite là les deux grandes formes d'intelligence. La forme aristotélicienne, la forme platonicienne. Et autour de ça, vous avez toutes les autres modulations. Et c'est en fonction, je comprends très bien qu'Aristote ait insisté là-dessus, 1, 2, il met Platon au premier étage. Et lui, il se met au rez-de-chaussée. Pour sortir du premier étage, vous devez sortir par le rez-de-chaussée. Donc le premier étage est mis en boîte. Tandis que Platon, il fait l'inverse. Je vous donne une petite chaîne. Platon, il fait l'inverse. Il sort par le premier étage. Donc il ouvre la fenêtre. Il fait comme un oiseau. C'est un oiseau, Platon. Tandis qu'Aristote, il sort sur ses pieds. Parce que l'homme en soi est premier. Et Pierre n'est pas l'homme en soi. Sauf pour Jean-Jacques. Il faut bien l'oublier, ça. Parce que Jean-Jacques dit « Regardez-moi, je suis l'homme. » Tandis que Pierre ne dit pas ça. Pierre ne dit pas « Regardez-moi, je suis l'homme. » Pierre est relatif à homme en soi. Et tout devient relatif à homme en soi. Et alors là, on a comme forme de pensée l'idéalisme. Et vous comprenez pourquoi? Ce qui est premier, c'est ce qui est pensé. Ce qui est premier, c'est ce qui existe. Faites vos choix. Parce que l'homme en soi n'existe qu'en tant qu'il est pensé. Vous ne l'avez jamais rencontré en dehors de votre pensée. Vous pouvez penser l'homme en soi. Tandis que Pierre, je sais qu'il existe. Alors, l'exister est relatif à l'homme en soi. D'où vous comprenez Descartes. Qu'est-ce que dit Descartes? Descartes dit « J'inverse l'ordre d'interrogation d'Aristote. » Pour Aristote, la première interrogation, c'est le « eisesti ». Pour Descartes et Platon, la première interrogation, c'est le « tiesti ». Le tiesti regarde l'homme en soi. Qu'est-ce? Donc, la signification devient première par rapport au jugement d'existence. Parce que le tiesti, c'est la signification. Qu'est-ce? Tandis qu'au contraire, le eisesti, s'il existe, existe-t-il? C'est l'exister qui est premier. Mais comme c'est très, très important de comprendre ça, vous avez toute la philosophie de la signification et la philosophie de l'exister. Et si on regarde ça dans un regard critique, on voit que le tiesti, le problème de la signification, relève de l'appréhension. Et le eisesti relève du jugement. Donc, fondamentalement, les deux grandes orientations de la pensée, c'est mettre l'appréhension en premier lieu, mettre le jugement en premier lieu. On isole l'appréhension, on a l'homme en soi. On met le jugement en premier lieu, en comprenant que l'appréhension est inclue dans le jugement, mais ne peut pas être séparée du jugement. Et on met en premier lieu le jugement d'existence. Donc vous voyez, c'est très important pour nous de saisir qu'est-ce qui est premier dans l'être. Est-ce pierre, est-ce homme? Vous allez me dire, mais vous séparez ce qui est uni. En réalité, homme est dans pierre. Et donc, en choisissant Pierre, je choisis homme. Est-ce que Pierre est contenu dans homme? Non. Homme est contenu dans Pierre, mais Pierre n'est pas contenu dans homme. Si je réfléchis un peu, je comprends donc que la philosophie de la signification est inclus dans la philosophie de l'exister. Tandis que la philosophie de l'exister, la philosophie de la signification est inclus dans la philosophie de l'exister, tandis que la philosophie de la signification n'inclut pas l'exister. Ça, c'est pour vous aider à choisir. Si la pensée philosophique, et tout le monde est d'accord là-dessus, doit être une pensée exhaustive qui prend tout. Il faut donc que le point de départ de la philosophie puisse tout comprendre. Si le point de départ de la philosophie fait un choix, ce choix est a priori. Et ma philosophie va s'enfermer dans un a priori. Si au contraire, mon point de départ n'implique pas cette limitation, la philosophie touche quelque chose de primordial. Ça me semble très important à saisir. C'est la plaque tournante, si vous voulez. Les deux grandes orientations. Et vous les voyez tout de suite dans cette interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? L'être est-il premièrement pierre? Est-il premièrement homme? Si l'être, ce qui est en tant qu'être, est premièrement homme, je peux me poser la question maintenant. C'est très vrai que dans l'interrogation, l'exister est première, mais l'exister implique homme. L'exister n'est donc pas l'absolu, puisqu'il implique homme. Autrement dit, l'exister ne peut pas se séparer de homme. Il y a donc une relation mutuelle entre homme et exister. Si je me pose la question, où se trouve l'absolu dans l'être? Qu'est-ce qui est premier dans l'être? Je vois que c'est ni l'exister, ni homme, puisque les deux s'appellent. Je dois donc aller plus loin et découvrir la source de homme et de exister. La source de homme et la source est d'exister. Et c'est là où se pose cette démarche inductive de saisir le principe. Autrement dit, si l'exister, le fait d'exister, est un certain principe dans l'ordre pratique. L'exister n'est pas un principe dans l'ordre de la recherche scientifique. Pourquoi? Parce que l'exister peut s'analyser. Il implique homme. s'il implique homme, je dois regarder qu'est-ce qu'il y a de plus dans Pierre par rapport à homme. Puisque Pierre est relatif à homme. Je dois donc essayer de comprendre ce qu'il y a d'au-delà de l'exister et de l'homme. Et c'est par là que je saisis la source dans l'ordre de l'être, de la substance, comme principe et cause de ce qui est. La substance est source de ce qui existe. Et la substance implique ou elle aussi va se déterminer dans homme. Ou elle va être source de homme, c'est plus juste. Donc l'au-delà de la dualité substance première et substance seconde me conduit à découvrir le principe de ce qui est la substance. Quand je pose donc l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?», je ne peux m'arrêter ni au premier dans l'ordre de la signification, ni au premier dans l'ordre de l'exister. Je dois aller au-delà du premier dans l'ordre de la signification et du premier dans l'ordre de l'exister pour saisir cette source particulière de l'être qui est la substance. Vous voyez comment l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» me conduit au-delà des prédicaments. L'intelligence ne peut pas se satisfaire de la description. La description est nécessaire dans toute démarche intellectuelle, mais elle ne peut pas être l'ultime démarche intellectuelle. Ça serait très intéressant à bien creuser pour comprendre la nécessité de l'induction. La nécessité de l'induction ne peut se comprendre que lorsque vous saisissez que l'intelligence ne peut pas se satisfaire de la description. Alors pourquoi ? L'intelligence ne peut pas se satisfaire de la description. Parce que si l'intelligence se satisfait de la description, soyons tous des artistes. Celui qui décrit le mieux, c'est l'artiste. Il est le premier dans l'ordre de la description. C'est bien évident. Un poète décrit admirablement. Un peintre décrit admirablement. Il décrit. Pourquoi mon intelligence ne peut pas s'arrêter à la description? Et pourquoi mon intelligence veut plus que la description? Parce que mon intelligence veut la signification. Qu'est-ce? Quand j'interroge qu'est-ce, je ne peux pas m'arrêter à la description. La description n'est pas la signification. La signification va plus loin. Vous voyez pourquoi? La description reste liée à la représentation, au singulier. Et l'intelligence veut saisir une signification universelle. La description reste toujours singulière. Et l'intelligence veut aller plus loin pour saisir la signification des choses. Quelque chose d'universel. C'est là où on voit comment l'intelligence ne peut pas abandonner le tiesti. Quand elle colle au réel, elle ne peut pas abandonner le tiesti. Qu'est-ce que c'est ? Parce que l'intelligence veut saisir la réalité dans ce qu'elle a de plus profond. Sa signification propre. Donc, l'intelligence ne peut pas affirmer d'une façon absolue que ce qui est premier, c'est le fait d'exister. Il faut qu'elle comprenne dans ce fait d'exister sa signification. Homme. Et elle ne peut pas abandonner le fait d'exister pour demeurer dans la signification. Parce que si elle abandonne le fait d'exister pour la signification, elle relativise le fait d'exister pour la signification, elle s'enferme dans l'universel et elle abandonne le singulier. Et c'est tout le drame de la pensée hegelienne. C'est très proche de nous. Ça a été le drame de la pensée aristotélicienne et c'est le drame de la pensée hegelienne. Les deux ont senti qu'on ne pouvait pas abandonner l'individu au profit de l'universel. Ou abandonner l'individu au profit, ou abandonner l'universel au profit de l'individu. On ne peut pas. On est obligé de tenir les deux. Substance première, substance seconde. Autrement, on appauvrit l'être. Autrement, on appauvrit la pensée. J'appauvris l'être quand je mets le primat sur l'universel. J'appauvris la pensée quand je mets le primat sur l'existence. L'être et la pensée sont liés de manière telle que je ne peux pas abandonner l'un au profit de l'autre. Je crois que c'est ça le drame de la pensée philosophique, qui est au cœur de l'aristotélisme, qui est au cœur de l'hégélianisme. Les deux grands génies philosophiques, Aristote et Hegel. Ça, il faut bien le saisir. Vous voyez, tandis que Platon supprime le drame en optant pour l'homme en soi. C'est plus commode. On relativise le singulier pour l'homme en soi. Il n'y a plus de drame. Et ce sera ce que fera la scolastique. En prenant toujours la définition. Je demeure dans la définition. Or, la définition, c'est la logique. Et par le fait même, la logique deviendra première. Très curieux. Vous voyez, Platon, la logique. Donc, si je ne peux pas abandonner la pensée au profit de l'exister, ou je ne peux pas abandonner l'exister au profit de la pensée, je dois donc me poser le problème : comment l'être est-il premier par rapport à la pensée. Et c'est là où il y a la démarche inductive. C'est grâce à l'induction que je découvre que le principe, ce qui est premier dans l'être, est premier dans la pensée. La substance première dans l'ordre de l'être et première dans la pensée. Et je crois que si on ne saisit pas ça, on ne voit pas l'importance de l'induction. Alors prenez-le de façon très simple, en regardant les prédicaments d'Aristote et en réfléchissant un instant sur substance première, substance seconde. Et voyez que vous ne pouvez pas abandonner l'une au profit de l'autre. Ça, c'est facile à comprendre. Substance seconde, la signification. Substance première, le singulier qui existe. Vous ne pouvez pas abandonner l'une au profit de l'autre. Alors vous restez dans la dyade, dans les deux. L'intelligence ne peut pas demeurer dans la dualité. La dualité, c'est le drame. C'est chien et chat. Alors évidemment, si vous les habituez à vivre en commun, c'est admirable. Mon chien n'est plus l'ennemi du chat. Et le chat n'est plus l'ennemi du chien. Tout va bien. Et vous avez supprimé au chien son instinct propre. Et au chat, son instinct propre. Et vous êtes devant une culture d'équilibre. L'intelligence ne peut pas demeurer dans la dualité. Il faut dépasser la dualité. Pourquoi dépasser la dualité ? Parce que la dualité demeure une relation. Et que la relation est toujours relative à quelque chose d'autre. Elle n'est pas première. Et le dépassement de l'induction, c'est comprendre que la signification existe dans autre chose que la signification, et que cette autre chose que la signification implique la signification. Et je dis ça, c'est parce que je crois que c'est très important, quand on induit, de comprendre que c'est une exigence fondamentale de l'intelligence. Je n'induis pas parce qu'Aristote a induit. J'induis parce que sans l'induction, mon intelligence se sclérose. Si je n'induis pas, je tue ce qu'il y a de plus vital dans mon intelligence. Et ce qu'il y a de plus vital dans l'intelligence, c'est de dépasser description, signification. Et d'aboutir à quelque chose qui est propre à l'intelligence, saisir le principe et la cause. Répondre à l'interrogation. Je peux le dire d'une autre manière. Si vous pouvez essayer de saisir comment la vitalité propre de l'intelligence, c'est l'induction. Il faut se poser beaucoup la question. Tant que vous n'avez pas saisi ça, vous induisez parce qu'Aristote induit. c'est lamentable. Au début, il faut faire ça. Puisque vous prenez Aristote comme maître, c'est pas commode de dépasser Aristote. Plus on prend un maître intelligent, plus on a de la peine de le dépasser. Quand le sycomore est très élevé, vous faites tout l'effort de vous élever au-dessus, puis vous ne savez plus descendre. Ça existe des étudiants qui ne savent plus descendre. Ils ont fait tout l'effort pour monter sur Aristote, puis ils y restent. C'est tellement beau. Oui, mais vous ne faites plus la philosophie. Vous êtes dans l'opinion d'Aristote. Et votre intelligence n'est plus vivante. Il faut comprendre que l'induction, c'est la vie même de mon intelligence. L'intelligence, pour rester vivante, doit induire. Pourquoi ? Parce que, toujours la même chose, prenez ce petit dilemme. L'intelligence peut-elle s'arrêter à la description ? Je ne décris que l'individu. Seul l'individu peut être représenté. La signification est universelle. Et je ne peux me contenter ni de l'un ni de l'autre. Évidemment, il y a toute une série d'individus, ça il faut le reconnaître, qui se contenteront de la description et y demeureront. Donc, ils restent dans le sycomore. Ils ont fait un effort énorme de dire le grand maître de la pensée, c'est Aristote, j'y reste. Je m'appuie dessus. Tout ce qu'Aristote dit, c'est la vérité. Et donc, je circule toujours avec mon sycomore, qui est ma canne d'infirme. On peut se contenter d'une canne d'infirme. Après tout, on arrive à sauter, même avec une canne d'infirme, au bout d'un certain temps. Donc, on garde le sycomore. On n'a pas du tout envie de le quitter, parce que, pas sûr. C'est ça la description. Ou je m'installe dans l'universel. C'est tellement plus commode. Parce que l'universel, il vient de moi. C'est mon fruit. C'est le fruit. Je m'installe dans l'universel. Puis personne ne me gêne là. Alors je ne peux pas rester dans l'universel. Pourquoi ? Parce que l'universel, ce n'est pas la réalité. L'universel, ce n'est pas moi. Je suis un individu. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître la personne humaine. La personne humaine n'est ni l'individu, ni l'universel. La personne humaine est l'individu, mais quelque chose de plus. Elle possède une signification et elle est individuelle. La personne fait la synthèse des deux. Ça, c'est vrai. Mais la synthèse des deux, comment ? Comment unir les deux ? Pour unir les deux, il faut dépasser. Autrement dit, il faut comprendre qu'il y a deux types de significations. L'une qui est au niveau de la définition, l'autre qui est au niveau du principe. quai des causes. C'est une autre manière de saisir la nécessité de l'induction. Dans l'ordre de la signification, l'universel, c'est la signification pauvre. J'ai abandonné l'individu pour saisir l'universel. Mais il y a une autre signification qui va beaucoup plus loin. C'est la signification de la cause et du principe qui, elle, d'une certaine manière, est au-delà de l'individu, au-delà de l'universel. Et qui me donne alors une signification en profondeur. Une signification tout autre, mais celle-là, je ne la saisis que par l'induction, puisque c'est un au-delà. Vous voyez, c'est curieux, hein, les deux types de signification, tandis qu'il n'y a pas deux types d'individus. Il n'y a qu'un seul type d'individu, tandis qu'il y a deux types de signification. Je signifie quelque chose en le définant, par la définition, et je signifie quelque chose en saisissant, en l'analysant. En l'analysant et en saisissant ce qu'il y a de premier, puisque principe et cause, c'est ce qu'il y a de premier. Et ceci présuppose une analyse. L'induction, c'est la forme élémentaire de l'analyse. C'est la forme qualitative de l'analyse. L'analyse implique la division. Je divise pour saisir ce qu'il y a de premier, ce qu'il y a d'irréductible. Ce qui est indivisible. Tant qu'on peut diviser, on divise. À un moment donné, on ne divise plus. On est en présence d'un indivisible, donc d'un premier. Et l'induction, c'est la recherche de l'indivisible. Je recherche ce qu'il y a de premier, ce qu'il y a au-delà de tout ce qui est divisible. Or, la définition est divisible. L'universel est divisible. C'est un tout divisible. Je ne peux pas m'y arrêter à cause de ça. L'universel est toujours un peu confus. Et donc je peux prendre une autre voie qui est la voie de l'analyse pour saisir la cause et le principe. Et par là, je suis au-delà de l'individu, mais l'individu n'est pas étranger au principe et à la cause. Le principe et la cause vont, d'une certaine manière, faire la synthèse de l'individu et de l'universel. La recherche de Hegel, c'est de faire la synthèse de l'individu et de l'universel. Alors, le principe et la cause n'est pas la synthèse des deux, mais c'est un au-delà. Je suis au-delà de l'individu, je suis au-delà de l'universel. Et cet au-delà de l'individu et de l'universel rend raison de l'individu et de l'universel. En raison, c'est-à-dire exprime ce qu'il y a d'être. Ce qu'il y a d'être. C'est ça, rendre raison. C'est ce qu'il y a d'être dans l'individu et dans l'universel. Qu'est-ce qu'il y a d'être? C'est la substance qui est première dans l'ordre de l'être. qui montre que la substance demande d'exister. Et en demandant d'exister, elle est individu. Et la substance, comme principe, est source de toute signification. Et donc, elle assume la signification. C'est l'au-delà de l'exister et l'au-delà de la signification que l'intelligence seule peut saisir. Parce que l'intelligence n'est ni pur jugement, pure appréhension. Ce sont deux opérations complémentaires qui font comprendre ce que...